Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Deux heures d'info, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info, c'est avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour, chère Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, la natalité qui repart à la hausse, les prix de l'essence aussi, et ça c'est moins bien. Et puis le Parlement européen a lui une nouvelle présidente anti-avortement.
Le vent se lève à Ibiza, fausse polémique ou faute politique pour Jean-Michel Blanquer, qui était présent à Ibiza la veille d'annoncer son protocole sanitaire. Et puis à 12h50, on reviendra sur les effets du pass sanitaire qui aurait notamment permis d'éviter 4000 décès.
Notre question du jour sur RTL.fr, vacances à Ibiza. Justement, le ministre de l'Éducation nationale doit-il
bon
ou non
titre.
Être démissionné ?
Vacances à Ibiza.
Et oui, et ça pourrait faire un film. Vous dites non à 60%, oui à 33%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine.
Quel temps à Ibiza?
Sans doute un peu mieux qu'ici, en tout cas. Ceci dit, c'est moins gris partout, enfin pas partout.
Voilà, c'est moins gris, mais pas partout. La grisaille se dissipe, alors elle se dissipe bien, par exemple, sur le nord-est. C'est un beau soleil entre les Pyrénées, le Limousin, jusqu'aux Alpes, en remontant vers les Vosges. Mais c'est vrai que la grisaille est beaucoup plus tenace entre le nord-ouest et la vallée de la Garonne. Tout ça sous des températures un peu justes par endroits, de 3 à 8 degrés sur l'ensemble du pays et de 11 à 14 degrés près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette bonne nouvelle, les Français refont des bébés.
Papa, comment on fait les bébés ?
Bonjour Anaïs Bouisseau.
Bonjour.
Vous vous souvenez de cette pub qui avait marqué, bien sûr. Bon, redevenons sérieux avec vous, Anaïs. Après une année, bien sûr. Ah bah oui, et ça se fait pas à la légère. Après une année 2020 particulièrement morose, donc le nombre de naissances repart à la hausse.
Oui, 738 000 bébés sont nés en 2021 et c'est une bonne surprise pour l'INSEE car pour tout vous dire, en janvier 2021, c'était très mal parti. On était 9 mois après le début du premier confinement, 9 mois après mars 2020 et en fait à ce moment-là, ça avait calmé tout le monde. Les couples confinés n'avaient pas vraiment eu envie de procréer. Bon, ça s'est en fait arrangé en sortie de confinement. Tout le monde est ressorti, il faisait beau, les envies de bébés ont repris. C'est ce qui a permis 9 mois plus tard de faire grimper à nouveau les courbes de naissance. En mars 2021, en avril et surtout à partir du mois d'août, ce qui donne sur un an 3000 bébés de plus qu'en 2020. Dans le même temps, le nombre de décès a un peu diminué par rapport au début du Covid. Résultat, quand on fait les plus et les moins, plus de bébés, moins de décès, c'est un solde positif. La France compte désormais 67 800 000 habitants.
Anaïs Bouisseau du service économie de RTL. À la hausse également les prix de l'essence, mais ça c'est une mauvaise nouvelle. 1,62€ le litre de gazole, c'est simple, c'est un record du jamais vu. Record aussi pour le sans-plomb 95 à 1,68€. Alors attention, il ne s'agit là que de moyenne. Parfois c'est bien plus. 1,80€ par exemple ce matin entre Lyon et Saint-Etienne.
C'est une catastrophe. Ça a augmenté à 1,64€, c'est horrible. Prends attention. C'est-à-dire quand on peut éviter de prendre la voiture ou de covoiturer.
Parce que là, ça vous a coûté combien ?
50€.
Pour 30 litres ?
Oui, ce qui ira pas très loin.
Je regarde plus, parce que ça va toujours en augmentant, ça va prendre des cendres. Alors ça descend un petit peu, puis après ça remonte. Mais bon, on paye très cher. 1,80€ presque. Elle a encore augmenté. Ça fait un budget, là. En fin d'année, vous comptez, bon, t'as fait des sous, et puis c'est tout. Hein.
Voilà, 74,13€ pour 43 litres 63.
Donc ça commence à piquer un peu.
Après, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut se déplacer. Moi, je commence à 5h30 le matin, donc il n'y a pas de bus qui y va. Voilà, on n'a pas le choix de prendre la voiture. Je ne me vois pas faire le trajet à vélo. Et puis là, en ce moment, il fait un peu froid.
Des propos recueillis pour RTL par Frédéric Perruche. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Et ça va aller jusqu'où cette hausse comme ça ?
Alors, au risque de plomber le moral, les prix risquent de grimper encore un peu plus dans les prochaines semaines en raison d'un prix du baril élevé, plus 20% depuis le début de l'année. À cela, vous avez deux raisons. Un, la reprise économique. On pensait que la nouvelle vague d'épidémie allait davantage freiner la croissance. Or, la demande est soutenue dans le monde. Deuxième raison, eh bien, l'offre qui a du mal à suivre. En effet, les pays producteurs de pétrole qui avaient prévu une reprise moins soutenue n'ont pas augmenté la production. Ajouté à cela un autre facteur, les foyers de tension dans certaines parties du globe, on pense notamment au Kazakhstan, plus grand producteur de pétrole d'Asie centrale. Résultat, ces tensions font chauffer les prix à la pompe et pour l'instant, bien malin qui peut prédire si cette inflation va perdurer. En tout cas, en attendant, en un mois sur un plein, cela se traduit concrètement en moyenne par une bonne dizaine d'euros en plus.
Ouais, ce n'est pas rien plus. 10 euros sur un plein, merci à vous Christophe Bourreau.
2,13€ dans une station parisienne,
oui, mais c'est à
ce
Paris.
Matin. 2,13 €. La polémique autour de Jean-Michel Blanquer et ses vacances à Ibiza.
Révélation de Mediapart et avalanche de critiques depuis hier soir. Une partie de l'opposition réclame sa démission. Écoutez la réaction de Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle.
Bah, ça ne fait que confirmer qu'on a un ministre qui se moque éperdument des enseignants. On avait bien vu que ce protocole, il l'avait dévoilé quelques heures avant la rentrée, un dimanche après-midi sur un site payant, c'était gonflé. Maintenant, je vais vous parler franchement, nous ce qu'on veut, c'est que ça change de politique. Et donc j'en entends beaucoup qui appellent à sa démission. Si c'est pour mettre le même, un Blanquer-bis, ça ne change rien. Et que les écoles elles puissent être ouvertes et sécurisées. Et on veut pour cela que le gouvernement décide d'y mettre les moyens qu'il faut.
Fabien Roussel au micro RTL de Charles Ducrot. Alors, faute ou pas, on en débattra dans moins de 10 minutes sur RTL. Ce qui est sûr, c'est que ces révélations embarrassent au plus haut sommet de l'État. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Est-ce que sa démission, celle de Jean-Michel Blanquer, est réellement envisagée?
La question ne se pose même pas, balaye un proche du président qui avance trois arguments. La crise sanitaire en cours, la réunion avec les enseignants cette semaine pour recruter de nouveaux profs en urgence, et bien sûr la nouvelle grève jeudi. La ligne de l'exécutif est claire. Pas la peine de s'affaiblir en pleine crise en virant un ministre. Et puis, souligne un ténor de la majorité, il n'y a aucun intérêt politique à faire partir Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Le ministre s'apprête donc à faire le dos rond. Dans son entourage, certains lui conseillent de faire un mea culpa à l'Assemblée tout à l'heure en expliquant qu'il est désolé s'il a pu choquer avec son séjour au Baléares. Le fera-t-il? On verra ça à 15h. Mais hors micro, ce qui est certain, c'est que personne n'a vraiment envie de le défendre. Et pourquoi pas Cancun au Mexique, s'indigne un député. Emmanuel Macron, lui, n'a pas réagi officiellement, mais d'après un de ses amis, le président n'est pas content du tout que son grand rendez-vous sur l'Europe à Strasbourg demain soit parasité par cette nouvelle polémique.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Le président, vous le disiez à l'instant, qui sera demain à Strasbourg pour présenter donc au Parlement européen les priorités de la présidence française de l'Union. Parlement désormais dirigé par une femme, Roberta Metsola, élue ce matin. Bonjour Bénédicte Tassin.
Bonjour.
Son profil a de quoi surprendre. Hein. Cette Maltaise est profondément anti-avortement. Comment expliquer que ce soit elle qui ait été choisie, et ce dès le premier tour?
Roberta Metsola est anti-avortement, comme son pays, Malte, le dernier à refuser l'IVG. Le symbole est gênant, mais cette cadra représente aussi une nouvelle génération. Elle s'est engagée à défendre toutes les opinions. « Je soutiendrai les femmes qui luttent pour leurs droits », a-t-elle encore réaffirmé ce matin. Très portée également sur la défense de la presse, de la communauté LGBT, Roberta Metsola apparemment convaincue de sa volonté de rassembler et de défendre, ça c'est pour les Français, le siège du Parlement à Strasbourg.
Une ville, une région qui acte géographiquement une séparation des pouvoirs et par conséquent offre une garantie démocratique et fait de notre Assemblée une institution incarnée, proche et accessible au service des citoyens.
458 voix au premier tour, loin devant la candidate écolo, Roberta Metsola, applaudissements et bouquets de fleurs. Fête aujourd'hui dignement son anniversaire.
Bénédicte Tassard en direct du Parlement européen à Strasbourg pour RTL.
Le Conseil constitutionnel à présent qui annonce rendre son avis concernant le pass vaccinal, ce sera vendredi.
Dans le même temps, la situation sanitaire continue de s'améliorer. À Marseille, la PHM commence même à reprogrammer des opérations annulées ces dernières semaines. Le professeur Jean-Luc Jouve préside la commission médicale de la PHM.
Là, pour l'instant, on profite de l'accalmie pour parer au plus pressé et faire des patients chez qui, dans chaque spécialité, on n'avait plus trop de marge de manœuvre pour patienter. En large priorité, les patients de chirurgie cardiaque, chirurgie de transplantation, neurochirurgie. Pour vous donner une idée, en chirurgie cardiaque adulte, le professeur Collard, il a 67 patients en liste d'attente. Les salles sont libres, on y va. On opère, on s'occupe des patients en espérant que ça va durer le plus possible. D'après les prévisions, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de nouveaux variants, les choses devraient rentrer dans l'ordre mi-février, mais c'est encore très aléatoire.
Le professeur Jouve au micro RTL d'Étienne Baudu. Les salariés de l'hôtellerie-restauration devraient bientôt voir leur salaire augmenter. Syndicats et patronats se sont mis d'accord sur le chiffre de 16%. 16% vraiment, Pierre Herbulot?
Alors, c'est le bon chiffre, mais il ne correspond pas aux augmentations qui seront distribuées distribuée. En fait, ces 16%, c'est la moyenne des augmentations de la grille de la branche, celle qui fixe les salaires avec échelon des plongeurs jusqu'au directeur d'établissement. Et même si cette moyenne est bien en hausse de 16%, c'est par rapport à la dernière grille qui, elle, date de 2018. Elle était largement obsolète et carrément plus appliquée, tout simplement parce que les plus bas salaires indiqués étaient passés sous le SMIC qui lui a bien été mis à jour, plus 7% ces 4 dernières années. Donc, les augmentations ne seront pas automatiques, elles concerneront ceux qui n'ont pas ou peu été augmentés ces dernières années. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'avec cet accord, les plus bas salaires de l'hôtellerie-restauration seront désormais payés 5% au-dessus du SMIC, un moyen de rendre plus attractif un secteur qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre.
Explication signée Pierre Herbulot pour RTL. Un petit mot de tennis pour vous dire qu'à l'Open d'Australie, Alizé Cornet s'est qualifiée, la Française qui dispute là son 60e Grand Chelem. Qualification également de Richard Gasquet qui a battu un autre Français, Hugo Humbert. Et puis Benoît Paire.
Qui avait été contrôlé positif à son arrivée sur place, d'ailleurs, fin décembre.
Oui, et tout va mieux.
Le simple nom de Ibiza charrie un parfum de luxe, un esprit de fête, une envie de vacances. Ibiza est un symbole comme Saint-Tropez ou Megève. Si Jean-Michel Blanquer était allé à Guernesey, la polémique ne serait peut-être pas la même. Faute politique ou fausse polémique que ces vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer. On en parle dans une seconde avec le toujours excellent Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Tout le monde a le droit de prendre des vacances, mais là, on était quand même dans un contexte très particulier. On était tous en train de se demander comment est-ce qu'on allait faire la rentrée. On attendait le protocole sanitaire, on essayait de s'y retrouver. Et on apprend qu'en fait, notre ministre était en vacances.
C'est la polémique du jour, ces vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Les syndicats d'enseignants, vous venez de l'entendre, n'ont pas vraiment apprécié. Alors, tort ou à raison, le ministre a-t-il commis une faute ou s'agit-il là d'une fausse polémique? C'est le premier débat d'RTL Midi. Avec nous Benjamin Sportouche. Bonjour Benjamin.
Bonjour Andy.
Chef du service politique de RTL. Et puis Rodrigo Arenas, bonjour.
Bonjour.
De la FCPE, première fédération de parents d'élèves. Je me tourne vers vous d'abord, Rodrigo Arenas. Est-ce que vous avez été choqué, vous, d'apprendre ça?
Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants et des élèves aussi qui nous informent qu'ils trouvent ça choquant. Ils trouvent ça choquant parce que on était tous sur le pont à attendre un protocole pour savoir comment la rentrée scolaire allait se passer au lendemain d'Omicron qui arrivait et que tout le monde était sur le pont pour y faire face. Et que oui, Ibiza a une connotation dans l'imaginaire populaire, dans l'imaginaire tout court, d'un lieu de villégiature au soleil dans lequel on fait la fête.
Mais le problème, donc, c'est oui, quoi, les vacances ou Ibiza?
Non, le question, c'est que quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas un technicien, vous êtes un homme politique. Et quand vous êtes un homme politique, les symboles ont du sens. Donc c'est cela aujourd'hui qui choque et qui est choquant. Donc, et ça aurait peut-être évité d'ailleurs, s'il avait été en poste réellement, d'éviter des réponses techniques qui ne faisaient que provoquer du chaos dans l'école. Et c'est ce qui s'est passé. Il aurait par exemple pu entendre ce que disait la FCPE, de dire qu'il fallait mettre des tests salivaires et non pas des tests rhinopharyngés pour les enfants. D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui vient de sortir qui explique que face à Omicron, les tests salivaires sont plus efficaces que les tests rhinopharyngés. C'est toutes ces erreurs-là qui auraient pu être évitées parce qu'il n'est pas un technicien. Les techniciens, ce sont les services de l'éducation nationale qui font admirablement bien leur travail, mais lui, il est là pour arbitrer. Arbitrer avec les organisations syndicales, avec les parents d'élèves. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant la période que nous avons vécue, notamment pendant les vacances scolaires, où nous étions tous sur le pont, eh bien, nous n'avons pas eu d'échange avec le ministre. Voilà la situation. Donc oui, c'est choquant, c'est une faute politique et c'est une faute technique parce que, comme je viens de vous le dire, ça a provoqué le chaos à la rentrée avec tous ces parents et ces enfants qui errait de pharmacie en pharmacie pour répondre à un protocole que tout le monde disait n'était pas applicable dans la réalité quotidienne de l'école.
Benjamin Sportouche, faute politique ?
Écoutez, en tous les cas, c'est sûr que c'est pas facile à gérer pour l'exécutif. Mmh. Hein. Clairement, il se serait bien passé ça. C'était très mal passé le protocole lui-même au gouvernement. C'est-à-dire l'annonce de ce protocole qui avait été maladroitement faite dans Le Parisien alors qu'on estimait que ça aurait dû être fait par le ministre lui-même. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il ne l'a pas fait lui-même. C'est là que c'est gênant. C'est parce qu'il y avait une possibilité, un devoir de pédagogie à ce moment-là, et ça n'a pas été fait, et maintenant on comprend mieux pourquoi, c'est que le ministre n'était pas à Paris. Oui, il y aurait pu avoir une conférence de presse le dimanche, pour être clair, pour dire voilà quel est le protocole, avant qu'il y ait une interview dans Le Parisien. Mais tout a été dit aux Parisiens, et ensuite dans un communiqué de presse sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Alors est-ce que s'il y a faute politique, c'est dans la manière dont tout cela a été fait à cause de ces vacances. N'inversons pas. Mmh. Vous voyez ce que je veux vous dire ?
Il y a une demande d'assaise quand même aujourd'hui qu'on réclame aux hommes politiques. Et comme le dit justement Monsieur Arenas, Ibiza est un symbole. Est-ce que le porte-parole était au courant ou le Premier ministre ? La réponse est non. Moi, c'est ça qui me surprend. Est-ce que le président de la République était au courant ? La réponse aussi est non. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer était à Ibiza et personne ne le savait.
Je ne peux pas vous dire s'ils étaient au courant. Mais
Gabriel Attal l'a dit ce matin. Oui, alors, il a dit je n'étais pas au courant et le président n'était pas au courant.
Oui, enfin, peut-être disent-ils ça, je ne peux pas vous dire si de le fait ils ne l'étaient pas. Mais c'est vrai que ce qu'on avait entendu de la bouche de certains ministres, clairement, c'est Jean-Michel Blanquer a manqué à ses devoirs à ce moment-là. Il n'a pas été opérationnel, il aurait dû mieux faire les choses. Mmh. On comprend aujourd'hui pourquoi. Et en plus, tout se sait, c'est ça qui est incroyable aussi. Mmh. C'est que comment le ministre n'a pas pu dire, à la limite, j'étais en vacances et je ne pouvais pas faire. Alors, le fait aurait été certainement aussi très mauvais.
Mais le problème, c'est Ibiza.
Mais là, c'est encore pire, parce que c'est un robot.
Le problème, c'est Ibiza. Ibiza est toxique. Il eût été à Guernesey, ce n'était pas la même chose. Et tu te dis, comment un ministre de la République peut-il penser aller en vacances à Ibiza la veille d'annoncer son protocole sanitaire dans les écoles. Franchement, parfois, je veux pas faire de populisme, mais tu comprends, Benjamin Sportouche, que les gens puissent se détourner de temps en temps de la politique.
Oui, mais en tous les cas, écoutez, est-ce qu'ils peuvent prendre des vacances ou pas ?
Ils ont le droit. Ils ont le droit. Je vous le répète. Oui, il eût été à Saint-Michel-Chef-Chef ou à Noirmoutier, il n'y avait pas de problème.
Faut-il qu'ils choisissent, ce soit les Français qui choisissent les lieux de vacances des présidents ? Y a-t-il un devoir d'exemplarité ?
Mais je vous signale que Bercy avait parlé d'un patriotisme économique.
Oui, non, mais là, ça veut dire qu'il ne peut plus partir à l'étranger.
C'est ce qu'avait demandé Bercy. Bercy avait demandé de faire travailler les hôteliers de France.
Rodrigo Arenas, il serait parti à Guernesey, comme le dit Pascal Pro, ça aurait changé quelque chose ou pas ?
Écoutez, de notre point de vue, ça n'aurait pas vraiment changé au-delà du symbole, parce qu'il y a aussi, je vous dis, une faute technique. C'est-à-dire que il y a eu un appel du chef de l'État, du chef du gouvernement, et y compris du ministre lui-même, à ce que les personnels d'éducation nationale et les parents soient mobilisés pour la rentrée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons préparé les choses. Il y a des chefs d'établissement qui étaient en poste avant la rentrée pour préparer les établissements au protocole, qui ont dû changer leur préparation parce que le protocole avait changé la veille. Donc, vous voyez, quand on est ministre, pour être clair, ou qu'on exerce une responsabilité au plus haut sommet de l'État, eh bien, on ne peut pas demander, entre guillemets, aux troupes bienveillantes qui, elles, sont les vrais héros des écoles ouvertes, c'est eux qui les maintiennent ouvertes, c'est pas les protocoles, d'avoir un degré d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes que le responsable n'a pas à son égard. Donc, c'est là, aujourd'hui, qu'il y a aussi une faute technique, parce que la technicité, c'est pas juste un protocole, c'est être en poste pour la mise en œuvre. Et aujourd'hui, force est de constater que cette mise en œuvre a reposé sur les personnels éducatifs, les parents d'élèves qui se préparaient avec les enfants, parce qu'il faut leur expliquer aux choses, et aux enfants qui subissent un protocole qui va leur faire mal au nez, faire pleurer les yeux, parce que c'est ça la symbolique. Et le ministre de son côté n'était pas en poste aux côtés parce qu'il n'y a pas eu de dialogue social.
Monsieur Arenas, évidemment, vous êtes premier, vous êtes président de la FCPE, qui est la première fédération de parents d'élèves, mais c'est important de dire aussi aux auditeurs que vous faites partie de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Pas du tout ?
Non, je suis membre du Parlement parce que j'y porte des idées sur l'école exclusivement. Mmh. Je ne suis pas adhérent de la France Insoumise.
Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que vous avez rejoint aussi le mouvement Jean-Luc Mélenchon pour lui. Pour être parmi ses conseillers,
oui, il faut le dire, c'est tout. Vous savez, moi je vous le reproche pas, mais c'est la fameuse question d'où on parle qui est importante, et simplement faut le dire aux auditeurs.
C'est pour ça que je vous dis, je ne parle pas de là. Donc je comprends la technique que vous êtes pour un peu discréditer ce que je suis en train de dire.
Non,
c'est pas très grave,
pas
je l'accepte.
Tout, mais pas du tout. Mais ne dites pas ça, puisque j'ai été très clair sur ce que nous pouvions penser de ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer. Mais je précise d'où vous parlez. C'est important de le dire.
Et je vous parle en tant que parent d'élève. Voilà, qui a exercé une fonction qui est la première fédération de parents d'élèves, qui a dit au ministre, au service, faites des tests salivaires aux enfants, et que la réponse a été circulée, il n'y a rien à voir. Voilà d'où je vous parle. Je vous parle d'un poste où j'étais aux côtés des parents sur le terrain la veille, l'avant-veille et le lendemain de la mise en œuvre de la rentrée scolaire, parce que c'était insupportable pour eux. Voilà d'où je vous parle. Et vous remarquerez que dans mon propos, il n'est pas politicien. Il est juste qu'on est sur un fait qui est préparé une rentrée scolaire, qu'on soit de gauche, de droite, du centre ou du nord. D'ailleurs, vos commentateurs politiques que vous invitez font tous le même constat, les membres de la majorité.
Mais monsieur Arenas, vous avez entendu ce que nous avons dit. Mais je voulais simplement préciser ça, et il était clair que ce n'était pas du tout pour discréditer votre parole, mais simplement vis-à-vis des auditeurs, c'est la moindre des politesses que de leur préciser cette information. Je vous remercie en tout cas, monsieur Rodrigo Arenas de la FCPE, qui est la première fédération de parents d'élèves. Benjamin
Sportouche.
Ça pose
quand même la question de rester 5 ans au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Vous savez que Jean-Michel Blanquer en faisait un trophée, et c'est vrai que même lui, au bout bout de 3 ans, il aurait aimé changer de ministère.
Je comprends.
Donc c'est peut-être aussi l'usure de ce ministère s'est retrouvé à
Ibiza. Je comprends que vous vouliez rester avec nous et vous allez rester précisément avec nous. Puisqu'à 13h, vous serez là. Vous voulez le micro et vous l'aurez. Mais après 13h, cher Benjamin Sportouche, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je demande à Emmanuel Macron ce matin d'avoir le courage de reconnaître qu'il s'est trompé, de démontrer qu'il n'a pas utilisé la crise sanitaire à des fins politiques et donc d'abroger dans les meilleurs délais le pass vaccinal. Parce qu'aujourd'hui, l'Espagne est en train d'ouvrir. Le professeur Combe et tant d'autres médecins reconnaissent qu'Omicron est très contagieux mais peu dangereux. Il faut consacrer nos efforts sur la vaccination des plus fragiles et pour le reste, laissez tranquille les Français. Redonnez-nous de la liberté.
C'était ce matin sur RTL. Guillaume Pelletier a appelé Emmanuel Macron à renoncer au pass vaccinal en plein ralentissement de l'épidémie. Et alors que le bon nombre de médecins annoncent que le pire est passé, le timing, c'est vrai, interroge. Pourquoi mettre en place ce pass vaccinal, acharnement ou choix de raison? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Alors le gouvernement s'appuie notamment sur l'expérience du pass sanitaire, un pass qui a fait ses preuves, clairement, si l'on en croit ce rapport qui est publié aujourd'hui par le Conseil d'analyse économique. Avant de rentrer dans les détails, Sophie, qui a fait ce rapport?
Alors, ce sont des chercheurs d'un peu tous les horizons, des économistes, des spécialistes de la santé qui viennent à la fois de l'Université Paris-Dauphine, le CNRS, d'Oxford, du Collège de France, de l'Institut Pasteur, du Conservatoire National des Arts et Métiers ou de Sciences Po. Donc, ce sont des chercheurs qui travaillent indépendamment du gouvernement et qui ont remis ce rapport à Matignon qui est rendu public aujourd'hui.
Alors, que disent-ils?
Alors, ils disent des choses intéressantes. Alors, c'est des modèles économiques, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais qui montrent par exemple que sur la vaccination, grâce au pass sanitaire, la France, par exemple, a augmenté de 13 points sa couverture vaccinale. Ça veut dire que sans ce pass, on serait aujourd'hui non pas à 78-80% de couverture vaccinale, mais à 65%. 13 points d'écart en termes de situation à l'hôpital, ça change tout. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que grâce au pass sanitaire, c'est la conclusion de cette étude en tout cas, que le nombre d'hospitalisations aura été environ 31% plus élevé. Il s'appuie là sur ce qu'on connaît de l'efficacité du vaccin. Donc pour ces chercheurs, sans le pass sanitaire, les hôpitaux, on va être clair, auraient explosé en décembre parce qu'il y aurait eu 31% de malades en plus. Il y aurait eu 4000 morts en plus aussi sur les 12000 morts entre juillet et décembre. Voilà, ce sont des chiffres abstraits tirés de modèles économiques mais qui sont validés par des chercheurs de renom.
Alors ça, c'est l'impact sanitaire. Il y a un impact économique aussi.
Alors sur l'impact économique, là, ils ont calculé le nombre, enfin les pertes évitées. C'est-à-dire que grâce au pass sanitaire, on a évité 6 milliards d'euros de pertes. Pour dire les choses différemment, le formule de cette façon-là, le PIB, vous savez, c'est ce que produit un pays.
La richesse
produite par le pays. Le PIB en France aurait été 0,6% plus bas sans le pass sanitaire. Et ça, je rajoute, ce n'est pas les chercheurs qui le disent, c'est moi qui le rajoute. Il faut mettre aussi ça en perspective avec la facture du quoi qu'il en coûte, qui est de 240 milliards d'euros injectés au 30 août, versus donc ces 6 milliards d'euros de pertes évitées.
Là où c'est un poil biaisé, c'est que ce n'est pas tant le pass sanitaire que la vaccination qui a évité.
Oui, mais sans le pass sanitaire, la vaccination n'aura jamais augmenté.
Voilà. Alors, c'est là qu'il y a discussion, puisque le pass sanitaire, au départ, il n'était pas fait pour que les gens se vaccinent.
Ah, c'était l'objectif du pass sanitaire, c'était que les gens se vaccinent.
Voilà, il ne le disait pas exactement comme ça.
Quand Emmanuel Macron l'a lancé le 12 juillet, c'était pour que les gens se vaccinent.
Il ne l'a pas dit comme ça, et c'est parfois, la vaccination n'est pas obligatoire en France. Non. C'est pour ça qu'il y a eu, entre le pass sanitaire et la vaccination, ce petit hiatus de temps en temps.
Ceci dit, le pass sanitaire instauré en France, lancé en France le 12 juillet par Emmanuel Macron, ce pass sanitaire a été imité ensuite en Italie et en Allemagne. Et on voit que l'Allemagne a commencé plus tard le pass sanitaire, avec du coup, si on en croit cette étude publiée ce matin, des résultats un peu moins importants en termes de couverture vaccinale, de PIB et de vie sauvée.
Juste un mot, Sophie, tout ça intervient alors que le pass vaccinal, cette fois-ci, devrait entrer en vigueur dans quelques jours. En tout cas, vendredi, le Conseil constitutionnel va donner son avis là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer, sans jouer les Madame Irma, que ça ait aussi un impact, ou alors, en fait, vu que l'épidémie est en train de ralentir, ça ne servira à rien?
Alors, le pass vaccinal va avoir beaucoup moins d'impact que le pass sanitaire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 4,6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, alors qu'à l'époque, il y avait 30 000, 40 millions de personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc, forcément, on part sur une population moins importante. Donc, forcément, ça aura moins d'impact, mais le pass vaccinal va forcément avoir un impact, et on le voit d'ailleurs, puisque les nouvelles injections augmentent petit à petit, un peu plus chaque jour en France.
Merci beaucoup Sophie Orange d'être toujours aussi précise et exhaustive sur ces sujets depuis le début de la pandémie. Il va être 13h dans une seconde. Vous avez le droit de ne pas rester avec nous.
Parce qu'on va parler
beaucoup de Jean-Michel Blanquer.
Pas de problème, je ne suis pas vexée.
La pause, à tout de suite.
RTL Midi.